France Culture.
Le journal est présenté par Olivier Vogel. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et tous. Tout cela va très mal se terminer, c'est Marine Tondelier, la chef de file des écologistes, qui l'a dit en sortant de l'Élysée tout à l'heure. Emmanuel Macron recevait les chefs des groupes politiques cet après-midi pour tenter de déminer la crise. Apparemment, ça n'a pas marché. Le nom du prochain Premier ministre sera annoncé dans la soirée. Visiblement, donc, il ne sera pas de gauche. On retrouve Adrien Toffolet sur place au début de ce journal. Le chemin du retour pour des milliers de Gazaouis après le début du retrait des troupes israéliennes dans le nord de la bande de Gaza. L'accord de paix entre Israël et le Hamas a commencé à porter ses fruits. Nous ferons le point avec Thibault Lefebvre à Jérusalem. Nous irons aussi au Venezuela où Marina Corina Machado a été sacrée prix Nobel de la paix ce matin. L'opposante au président Maduro vit dans la clandestinité depuis la dernière présidentielle. « Je suis sous le choc », a-t-elle déclaré, agréablement surprise. La Russie manquerait-elle d'essence? C'est Volodymyr Zelensky qui l'affirme. Difficile à vérifier, mais il est vrai que l'Ukraine intensifie ses attaques de drones sur les raffineries russes. Décryptage avec l'agence de vérification de Radio France. En Europe, un médecin ou infirmier sur 10 est en proie à des pensées suicidaires. C'est un rapport inquiétant que publie l'OMS sur la santé mentale des soignants. Quel est le nom qui sortira du chapeau avant d'annoncer la couleur du nouveau Premier ministre dans les prochaines heures? Emmanuel Macron consultait cet après-midi à l'Élysée. Réunion de crise avec les chefs de groupes politiques pour tenter de trouver la solution à cet interminable feuilleton. Une réunion sans LFI ni le RN, car selon l'entourage d'Emmanuel Macron, les deux formations ont indiqué rechercher la dissolution. Alors un Premier ministre ou une Première ministre issue de quel bord? Apparemment pas de la gauche. La réunion s'est achevée il y a maintenant une heure. Adrien Toffolet, vous êtes sur place à l'Élysée. Bonsoir.
Bonsoir.
Et a priori, le président a écarté l'idée d'une dissolution, mais a réussi à braquer presque tout le monde, en tout cas à gauche.
Oui, à l'image de Marine Tondelier, la patronne des écologistes.
Nous sortons de cette réunion sidérés.
Sidéré car toute la classe politique présente cet après-midi à l'Élysée est arrivée avec beaucoup de questions, mais à l'issue de ces 2h30 de réunion...
Nous estimons que nous ressortons avec aucune réponse, sur rien, si ce n'est que le prochain Premier ministre qui devrait être nommé dans les heures qui viennent, nous dit Emmanuel Macron, ne sera pas dans notre camp politique, pour le dire clairement.
Un Premier ministre donc, pas de dissolution, mais rien de plus. Premier ministre qui pourrait être issu des rangs de ce qu'on appelle le socle commun, qui a pourtant explosé avec Bruno Retailleau refusant le premier gouvernement Le Cornu et Édouard Philippe appelant au départ d'Emmanuel Macron. Situation qui interpelle pour le moins le chef des députés socialistes Boris Vallaud.
Il a prétendu, lui, le président qui a toujours décidé de tout, qu'il ne pouvait décider de rien. Et il a renvoyé à la nomination, dans les heures qui viennent, nous a-t-il dit, d'une ou d'un futur Premier ministre. Ce qui signifie que, à part convenir ensemble, que nous devions trouver un chemin qui permette la stabilité dans l'intérêt du pays, nous ne savons pas ce à quoi le président de la République et ceux qui, on ne sait pas véritablement, sont de son socle commun, sont prêts à faire pour y parvenir.
Aucune avancée donc sur la fiscalité pour les plus riches, aucune avancée également sur les retraites. Tout cela avait été demandé par la gauche qui sort ce soir très déçue de ce rendez-vous à l'Élysée avec le président de la République et qui va réfléchir d'ores et déjà à la possibilité d'une censure.
Adrien Toffolet en direct de l'Élysée avec les moyens techniques de Selim Guéribi. Voilà qui promet en tout cas un week-end qui risque fort de ressembler au précédent avec l'annonce attendue du gouvernement suivant, avec une urgence, celle de déposer lundi dernier CARA, un projet de budget afin que le Parlement dispose bien de 70 jours pour l'examiner. Les syndicats du BHV, le bazar de l'hôtel de ville qui porte bien son nom, voient rouge. Les salariés du grand magasin parisien sont en grève depuis ce matin. Ils protestent contre un nouveau partenariat signé par la société des grands magasins propriétaires du BHV avec Chine, le géant asiatique de la fast fashion, car il est prévu d'installer un comptoir de la marque d'e-commerce dès novembre au cœur de ce magasin, ce qui a provoqué la colère de ses partenaires. Il y a deux jours, la Banque des Territoires a décidé de se retirer des négociations entamées au mois de juin avec la SGM pour l'aider à racheter les murs du BHV, invoquant une rupture de confiance. Jeanne Serrin, bonsoir.
Bonsoir.
Une intersyndicale a organisé cet après-midi un rassemblement devant le BHV. Les salariés que vous avez rencontrés sont très inquiets pour l'avenir de leur magasin.
Très inquiets, mais vous l'entendez, ils sont surtout très en colère contre la direction du BHV, et plus particulièrement contre Frédéric Merlin, le président de la SGM. En témoigne cette vendeuse qui souhaite rester anonyme.
Ce monsieur est en train de faire un grand bras d'honneur à toutes les entreprises de ce bâtiment qui luttent en respectant les normes écologiques, les normes salariales. Et ce monsieur est en train de le dire, bande de crétins, moi je respecte aucune règle et on me donne 1000 mètres carrés.
La direction affirme de son côté avoir obtenu des garanties. Chaque produit Chine vendu respectera les normes sociales et environnementales européennes, martèle Frédéric Merlin ces derniers jours. Mais ici, les salariés n'y croient pas et ne croient pas non plus à l'effet ruissellement que pourrait offrir Chine sur les autres marques. Ce logisticien travaille au BHV depuis 35 ans.
On pourrait se dire que c'est une stratégie comme une autre. Mais en réalité, c'est un peu la stratégie du désespoir. On se dit qu'on ne reconnaît plus notre magasin. D'ailleurs, les clients nous le disent. Et ça fait vraiment mal.
Il faut dire que les problèmes s'accumulent ces derniers mois. Des retards de paiement aux fournisseurs, des rayons vides et des marques qui claquent la porte. Pour redresser les finances, la direction a décidé de ne pas remplacer une partie des départs en retraite. Abla, ancienne vendeuse au rayon literie, a elle été licenciée au mois d'août.
18 ans que je suis au BHV, j'ai vu le déclin. Il croit qu'en faisant venir chez In, il va avoir des clients. Mais non. Il va avoir quoi ? Des petites de 15 ans qui vont acheter un t-shirt à 10 euros et qui vont le jeter et qui vont venir une semaine après. C'est franchement une catastrophe, le BHV est mort. C'est fini.
Certains ici espèrent encore un électrochoc après le départ de la Banque des Territoires. Un rétropédalage, plusieurs représentants de l'intersyndicale nous disent ce soir ne pas y croire.
Merci Jeanne Serrin. Il chemine à travers un territoire dévasté par 2 ans de pilonnage. Des milliers de Gazaouis sont sur le chemin du retour vers le nord du territoire. Si tant est qu'il reste encore quelque chose sur place, l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur ce matin. Thibault Lefebvre, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Correspondant de France Culture à Jérusalem, les troupes israéliennes se sont mises en mouvement dans l'autre sens et ont commencé à se retirer de la bande de Gaza.
Oui, depuis midi heure locale, confirmation de l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, l'armée israélienne occupe cet après-midi un peu plus de 50% de la bande de Gaza et encercle complètement le cœur de l'enclave. Des milliers de Palestiniens déplacés du nord de Gaza rentrent en ce moment même chez eux. Le compte à rebours pour l'échange d'otages et de prisonniers a donc commencé. Ce sera dans 72 heures, lundi midi donc, le jour où Donald Trump doit arriver en Israël. Benjamin Netanyahou s'est exprimé tout à l'heure en hébreu, discours adressé aux Israéliens donc, où il a clairement endossé le plan Trump et essayé de montrer qu'il ne fera aucune concession pour la suite.
Nous encerclons le Hamas de tous les côtés en prévision des prochaines étapes du plan. Ces étapes prévoient le désarmement du Hamas et la démilitarisation de Gaza. Si cela se fait de manière fluide, tant mieux. Sinon, ce sera par la force.
Discours volontaire, mais sans fondement pour le moment. Les États-Unis surveillent Benjamin Netanyahou comme le lait sur le feu. Steve Witkoff et Jared Kushner sont toujours en Israël. Ils doivent rencontrer le Premier ministre pour commencer à poser les jalons de la deuxième phase du plan, avec au menu des discussions le mécanisme de surveillance et le fonctionnement de la future force internationale de stabilisation.
Dans la bande de Gaza, cela fait donc près de 6 heures que les survols d'avions israéliens et les bombardements ont cessé en application du cessez-le-feu. L'armée d'Israël a retiré ses troupes derrière la ligne jaune qui a été négociée dans le cadre du traité de paix. Et dans la population gazaoui, la joie et le soulagement ont vite laissé la place à une idée fixe pour des milliers de déplacés rentrer chez eux, même si c'est sous les ruines. Camille Magnard.
Sur les deux routes rouvertes ce matin qui remontent vers le nord, vers Gazaville, les colonnes humaines se sont formées juste après l'annonce par Israël que le cessez-le-feu entrait en vigueur. Rentrer chez soi. Comme une évidence, nous dit Rawan, jeune femme de 26 ans, déplacée dans la ville de Deir el-Balah, au micro de Ferial Abdou.
Le plus important, c'est que le génocide cesse et que nous rentrions chez nous.
Rawan qui va prendre la route, comme tant d'autres, même si elle a encore du mal à y croire.
J'ai du mal à croire qu'il n'y aura plus de missiles, de souffrance, d'humiliation et de faim. J'ai l'impression d'être dans un rêve où la guerre s'arrête, mais je n'y croirai pas tant que je ne serai pas de retour à Gazaville.
Rentrer à la maison, c'est aussi affronter l'ampleur des dévastations de cette guerre. Notre collègue Rami Aboujamous sait bien ce qui attend ceux qui prennent la route.
Il y a des gens, ils sont rentrés chez eux dans des quartiers qui étaient quartiers rouges. Malheureusement, la majorité, c'est la destruction totale. C'est un tremblement de terre qui est passé. C'était pas la grande joie pour ces gens-là qui sont rentrés, ils n'ont pas trouvé chez eux. Et ils ont trouvé aussi des proches qui sont toujours sous les décombres. Des morts dans la rue, il fallait les enterrer.
Mais Rami et sa famille vont aussi faire ce chemin du retour cette nuit ou demain matin, ne serait-ce que pour dire qu'ils sont encore chez eux, à Gaza, après 2 années de guerre et qu'ils comptent bien y reconstruire leur vie.
Camille Magnard, la prochaine étape, c'est donc la libération des otages israéliens. A priori, dans les 3 jours, 47 otages, dont au moins 25 seraient morts. L'État hébreu a par ailleurs publié une liste de 250 détenus palestiniens libérables, mais cette liste ne comprend aucun des principaux détenus symboles de la lutte armée palestinienne depuis les attaques du 7 octobre et la guerre de riposte menée par Israël. Plus de 67 000 personnes, en majorité des civils, ont été tuées selon le ministère de la Santé du Hamas. Une guerre qui a également provoqué un désastre humanitaire. Au Pérou, la présidente Dina Boluarte, cible de plusieurs motions des principales forces politiques du Parlement, a été destituée. C'était la 6e présidente en moins de 10 ans. Le pays andin est miné par une crise sécuritaire. Les auteurs des motions soulignent l'incapacité morale permanente de Dina Boluarte à exercer ses fonctions à 63 ans. Elle perd ainsi son immunité. Elle est exposée à d'éventuels procès susceptibles de la conduire derrière les barreaux. Le président du Parlement péruvien, José Jerry, 38 ans, étiqueté centre-droit, assure l'intérim des élections générales se tiendront en avril 2026. Voilà une ligne que Donald Trump ne pourra pas rajouter sur son CV de l'année, le prix Nobel de la paix. Il a été décerné ce matin à Maria Corina Machado, la porte-parole de l'opposition vénézuélienne au président Nicolas Maduro, vit dans la clandestinité depuis la présidentielle de juillet 2024, dénonçant une fraude du président au pouvoir depuis 2013. C'est quoi ce truc, je n'arrive pas à y croire, je suis sous le choc, a déclaré ému dans une vidéo. La toute fraîche nobélisée, âgée de 58 ans, le peuple vénézuélien finira par l'emporter, a-t-elle ajouté. Ce Nobel de la paix est en tout cas une reconnaissance internationale qui a beaucoup ému dans son pays. Alice Compagnol est allée à la rencontre des Vénézuéliens.
La première réaction ce matin dans les rues de Caracas, c'était la surprise.
Non te creo. Que surprise.
C'est pas vrai. Oh, mais quelle surprise. Waouh.
Waouh. Si.
Ah bon? Quand?
Quando.
Face à la censure des médias, les Vénézuéliens ne s'intéressent plus tellement à l'information. Passé l'étonnement, les passants, tous, se réjouissaient de la nouvelle.
Super, elle le mérite. C'est génial.
C'est une bonne chose qu'ils lui donnent ce prix. C'est énorme, énorme.
Dans ce quartier huppé de la capitale, on ne tarit pas d'éloges sur Maria Corina, comme on l'appelle ici affectueusement.
Elle est si courageuse, tout le monde ne fait pas ce qu'elle a fait. Tout le peuple est derrière elle, il n'y a aucun doute là-dessus. Ses qualités humaines, sa façon de se présenter, elle est excellente, je l'admire vraiment.
Avec la lutte qu'elle a menée pour ce pays, c'est vraiment une femme bien.
Elle a en effet représenté l'espoir d'une alternance dans un pays qui vit gouverné par la même tendance politique depuis 25 ans. Mais ce prix, aussi prestigieux soit-il, pourra-t-il changer la donne au Venezuela où la répression est devenue la norme? Rien n'est moins sûr.
Vous écoutez France Culture, il est 18h et presque 15 minutes. Le troisième pays producteur de pétrole au monde manquerait-il d'essence? Dans une vidéo partagée sur le réseau X, Volodymyr Zelensky affirme que la Russie fait face à des pénuries de carburant à hauteur de 20% de ses besoins. Difficile de vérifier ce chiffre, mais depuis cet été, l'Ukraine intensifie ses attaques de drones sur des raffineries et infrastructures pétrolières russes déstabilisant la production de carburant. Thomas Pontillon, bonsoir.
Bonsoir.
De l'agence de vérification de Radio France, vous vous êtes plongé dans les réseaux sociaux et médias russes. Que sait-on exactement de ces pénuries ?
Eh bien, on trouve de nombreuses vidéos ces derniers jours, comme celle-ci. Cet homme décrit les dizaines de voitures qui font la queue pour aller faire le plein. Certains sont même là depuis le milieu de la nuit avec leur thermos de café, dit-il. D'autres messages sur les réseaux sociaux mettent en avant la très forte hausse des prix du carburant ou le rationnement mis en place dans certaines provinces. La presse russe parle de ces pénuries qui touchent plusieurs régions du pays, parfois très éloignées du front ukrainien. Par exemple, un journal local de Vladivostok, dans l'extrême est de la Russie, fait état de nombreuses stations-service fermées mais à cause, soi-disant, d'un afflux important de touristes dans la région. En réalité, s'il manque de l'essence à la pompe, c'est plutôt à cause des attaques répétées de drones ukrainiens. Il y en a eu au moins une trentaine depuis l'été dernier. Et elles visent ces attaques spécifiquement les raffineries et les dépôts de pétrole. Les autorités russes ne publient aucune statistique sur l'impact de ces frappes, mais elles reconnaissent une petite pénurie. De leur côté, plusieurs spécialistes russes du secteur dressent un tableau un peu plus sombre. La production de pétrole est bien en baisse à cause des drones ukrainiens, les livraisons de plus en plus difficiles. La Russie finit par manquer d'essence et arrête même ses exportations jusqu'à la fin de l'année. Elle qui est pourtant le troisième producteur mondial de pétrole. Ce qui fait dire à Volodymyr Zelensky que ces frappes ont porté un coup sérieux à la Russie.
Les incendies dans les raffineries de pétrole, les terminaux, les dépôts pétroliers russes sont les sanctions les plus efficaces.
Et l'Ukraine promet de continuer à frapper, y compris très loin en Russie, avec des drones qui peuvent parcourir plus de 1000 km.
Thomas Pontillon, merci, de l'agence de vérification de Radio France. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, publie un rapport inquiétant sur la santé mentale des soignants. Un médecin ou infirmier sur 10 en Europe est en proie à des pensées suicidaires. Les résultats varient beaucoup d'un pays à l'autre, mais ils montrent une tendance, celle d'un mal-être croissant parmi les professionnels de santé. À Genève, pour RFI et France Culture, Jérémy Lanche.
Les médecins et les infirmiers ont 5 fois plus de risques d'être touchés par la dépression et l'anxiété que le reste de la population, 2 fois plus en ce qui concerne les pensées suicidaires, et même 3 fois plus chez les étudiants français en médecine. Parce qu'on l'oublie souvent, dit le patron de la branche européenne de l'OMS, Hans Klug, la qualité des soins ne se mesure pas qu'au nombre de lits disponibles dans les hôpitaux ou au taux de succès des opérations chirurgicales. On doit aussi prendre en compte l'épuisement physique et moral des professionnels de santé.
Entre 11 et 34% des personnes qu'on a interrogées disent qu'elles veulent quitter leur métier, alors qu'on sait qu'il va manquer 940 000 professionnels de santé en Europe d'ici 2030. On ne peut pas les laisser s'enfoncer dans le burn-out, le désespoir ou la violence.
La violence physique et le harcèlement sexuel dont sont victimes environ 10% des médecins et des infirmiers sur leur lieu de travail. L'OMS demande l'application d'une tolérance zéro envers les agresseurs, un meilleur soutien psychologique pour les soignants et la fin de la culture du travail jusqu'à l'épuisement. Un quart des professionnels interrogés disent travailler plus de 50 heures par semaine. Le rapport fait aussi un lien entre le mal-être des soignants et leur consommation d'alcool. 3% disent être dépendants à l'alcool en Europe, 8% pour ceux exerçant en France. C'est le record parmi les 29 pays étudiés.
Jérémy Lanche, le correspondant de RFI et France Culture à Genève. Sale temps pour les phoques et les oiseaux sur la planète. C'est un nouveau signal d'alarme que tente d'actionner vigoureusement l'UICN, l'Organisation Internationale de Protection de la Nature, à l'occasion de son congrès mondial qui se tient à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. L'organisation souligne l'incidence toujours plus grande de l'activité humaine sur la nature et les climats. 61% des espèces d'oiseaux dans le monde voient leur population baisser. Par ailleurs, la fonte de la banquise représente un danger pour les phoques à capuchon, barbu et du Groenland. Mmh.
nights in white satin, never reaching the end.
On a appris cet après-midi la mort de John Lodge, le chanteur des Moody Blues, groupe anglais auteur de ce tube planétaire que vous entendez, sorti en 1967, Night in White Satin.